Hello mes chers amis, ici Pauline Aignot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode. Alors celui-ci c'est un épisode spécial, c'est la deuxième fois que j'invite cet invité parce que j'avais adoré notre première conversation ensemble et je me rappelle que j'avais dit d'emblée je veux absolument vous avoir une deuxième fois sur le podcast Serge. C'est le cas aujourd'hui, je suis ravie, donc j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Serge Marquis, un auteur, un homme de santé qui s'intéresse à la gestion du stress, qui s'intéresse à notre état psychologique, québécois d'origine, vous allez voir d'ailleurs son petit accent chantant, et on va parler aujourd'hui justement de santé mentale. On va parler de comparaison, on va parler de comment éviter de se comparer, surtout d'où vient ce mal qui nous touche tous au final, de la comparaison. Et vous allez voir qu'avec Serge, on va remonter très très loin dans notre enfance. J'ai trouvé ça passionnant, personnellement j'ai beaucoup appris, et je pense que cet épisode, pour être honnête, est quasiment d'utilité publique, tellement il va parler, je crois, à beaucoup de monde. Je serais en tout cas ravie de le savoir. Donc n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux, Pauline Aignot comme vous savez sur Instagram et sur LinkedIn, et puis aussi bien sûr n'hésitez pas à le dire à Serge Marquis parce que je suis sûre que ça lui fera très très plaisir. Si vous n'avez pas écouté notre premier épisode ensemble, n'hésitez pas aussi à aller jeter un petit œil ou plutôt une oreille à cet épisode parce que il vous apprendra aussi beaucoup de choses. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Serge Marquis. Serge, nous sommes en live et je dois te dire que, comme je te le disais à l'instant, avant qu'on commence, le premier épisode qu'on a fait ensemble a été l'un des épisodes les plus écoutés de l'année dernière. Je pense que tu as touché au cœur beaucoup de personnes qui n'ont pas l'habitude de se poser des questions et qui ont été, je crois, très sincèrement touchées. J'ai reçu des messages même très émouvants, franchement, pour tout te dire, de personnes qui m'ont dit « mais... » Vraiment, j'avais l'impression dans la bouche de Serge, dans les mots de Serge, en fait, de m'entendre, enfin, en fait, vraiment qu'il s'adressait à moi directement, à moi personnellement. Donc, je pense que tu leur as fait un beau cadeau. Et donc, malheureusement pour nous, Serge, tout ceci a suscité tellement de questions que je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on fasse une V2. Et donc, la voici, je te remercie d'avoir accepté, où je répondrai, enfin, ou plutôt, je vais te poser toutes les questions, ou une partie des questions, parce qu'elles ont été très nombreuses, de mon audience. Suite à cette première opus ensemble, à ce premier épisode, je suis assez excitée parce que moi-même c'est des questions que je me pose, mais par ailleurs je suis sûre que ça va être utile à beaucoup de personnes. Donc déjà je commence par te dire un grand merci d'avoir accepté de jouer le jeu à nouveau.
Moi j'ai le goût de dire merci à toi aussi Pauline, merci pour ce que tu fais, puis si ça peut être utile, ben allons-y.
Eh bien, on y va. Alors écoute, tu te rappelles la dernière fois on avait beaucoup parlé du regard des autres. Et je pense que ça avait fait un déclic à beaucoup de personnes. Et donc, j'ai reçu un certain nombre de messages de gens qui me disent « Moi, j'ai un problème, c'est que je suis quelqu'un qui me compare énormément. Je suis souvent dans une démarche où soit c'est de l'envie, soit c'est que je me dévalorise, je me dénigre parce que je trouve que les autres sont tous meilleurs que moi. Et donc, je suis dans une situation presque de blocage. Et j'ai même des personnes qui m'ont dit qu'ils se refermaient en fait autour d'eux, et notamment à cause des réseaux sociaux, qu'ils n'osaient plus regarder les médias, qu'ils n'osaient plus regarder les réseaux sociaux, notamment des entrepreneurs, parce qu'ils ont tellement l'impression de voir uniquement des succès, tu vois, autour d'eux, et bien en fait, qu'ils se sentent complètement dévalorisés. Donc cette atteinte à leur confiance en eux est d'ailleurs souvent assez terrible. Et j'ai reçu, je t'assure Serge, des messages de personnes qui me disaient qu'ils étaient dans la détresse sur ces sujets. Donc j'ai une vague question pour toi, mais qui à mon avis va parler à beaucoup de monde. Comment réagir quand on souffre du mal de la comparaison?
C'est intéressant de remonter loin en arrière dans le passé, là, dès la petite enfance. Et puis, il faut que je le dise, moi je suis pas psychiatre. Hein. Il y a des gens qui pensent que je suis psychiatre, mais je suis pas psychiatre, mais je me suis intéressé à la santé mentale toute ma vie. Et j'ai soigné aussi beaucoup de personnes, me suis formé pour faire de la thérapie. Et c'est de ces expériences, de ces lectures, de ces formations, de ces expériences que je tire une partie des réponses que je vais donner. Mais je l'ai dit parce qu'il y a cette confusion-là en France. Alors, mais faut retourner à la petite enfance. Il y a, et au fonctionnement du cerveau, c'est super important. Parce que... il y a un principe de base, je sais pas si on l'avait abordé la première fois, je m'en souviens pas, mais il y a un principe de base qui explique pourquoi on se compare. Le cerveau, il y a deux choses que je vais présenter l'une après l'autre. La première, j'ai 5 ans, je suis au pied de l'arbre de Noël. Devant moi, il y a les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les grands-parents, tout le monde est là. J'ai appris un petit poème quatre lignes à la maternelle. On m'a demandé de le réciter. Alors, je le récite. À la fin, tout le monde m'applaudit. Bravo, bravo. Il y a une personne bien intentionnée, c'est super important ça, bien intentionnée, qui dit ceci. « T'es merveilleux. Tu ne t'es pas trompé. » Mon petit cerveau de 5 ans entend cette phrase. « T'es merveilleux. Tu ne t'es pas trompé. » Et fait immédiatement l'association. Si je suis merveilleux, c'est parce que je ne me suis pas trompé. Mais si je veux continuer d'être merveilleux, il ne faut plus que je me trompe. Et je veux continuer d'être merveilleux parce que si je suis merveilleux, on m'applaudit. Et qu'est-ce que ça signifie être applaudi? Ça signifie, on va s'occuper de moi. On va prendre soin de moi. On va me protéger. On va me nourrir. On va me câliner. Le petit cerveau de 5 ans associe déjà ça à la survie. Il ne faut plus que je me trompe pour survivre. Ouais. C'est pas banal, c'est très, très profond. Et à partir de ce moment-là, le petit cerveau de 5 ans grandit et cherche constamment ce qui va lui permettre, à ses yeux à lui, d'être parfait ou parfaite, encore une fois, dans le regard de ceux ou de celles qui vont s'occuper de lui, qui vont le protéger, etc. Commence donc à fabriquer des images de lui et à porter des jugements déjà sur lui-même. Suis-je parfait ou parfaite à travers cette image-là? Il y a déjà une comparaison qui se fait, mais avec lui-même ou elle-même, à travers les images qu'il ou qu'elle fabrique, qu'on fabrique de soi. Et évidemment, avec les autres. Parce que l'autre élément, le deuxième élément qui est bien important, c'est qu'à partir du moment où on a associé recevoir de l'attention et survivre, on essaie constamment de trouver, pour le reste de notre vie, c'est de là l'importance que prend le regard des autres, on essaie de trouver constamment, tout au cours de notre vie, ce qui va faire qu'on va être intéressant ou intéressante, ce qui va générer à notre égard de l'attention. Mais pour s'assurer qu'on est intéressant ou intéressante, on se met à se comparer. Parce que suis-je plus intéressant que l'autre? C'est un peu une image d'un oiseau parmi les oisillons là, au cœur du nid là, qui cherche à tendre le bec le plus haut que les autres là, pour pouvoir avoir la nourriture, tu comprends? Pousse les autres un peu. Là. Mais ça, le cerveau commence à faire la comparaison. Est-ce que je suis le plus intéressant ou la plus intéressante au sens où est-ce moi qui vais susciter l'intérêt chez ceux de qui je veux l'attention, au fond? Et ceux ou celles de qui je veux l'attention, ben là, ça prend d'innombrables formes pour le reste de la vie. Les parents, bien sûr, les professeurs à l'école, déjà à 5 ans, 6 ans, 7 ans, on commence à se demander si on est le plus intéressant en classe. C'est nous qui allons être choisis quand on pose la question ou quand il y a une présentation à faire ou machin. Et déjà, on associe le fait de ne pas avoir été choisi au fait qu'on est moins intéressant ou moins intéressante. Alors donc, notre cerveau est en train constamment de scanner tout autour si on est celui ou celle qui est le plus susceptible de générer l'intérêt à notre égard. Il faut jamais oublier, c'est associé à une question de survie par le cerveau. Là. C'est très, très puissant, ça. Après, on arrive à l'adolescence, faire partie d'un groupe, est-ce que je suis assez intéressant pour faire partie du groupe? Les premiers désirs aussi à l'égard d'une autre, est-ce que je suis plus intéressant pour l'autre à 13, 14, 15 ans? Ça commence très tôt. Après, au travail, ça continue parce que c'est enregistré sur le vieux disque dur. Suis-je suffisamment intéressant ou intéressante pour qu'on m'offre tel défi, qu'on m'offre telle promotion dans l'espace de travail, ça. Dans la famille, par la suite, avec les parents, il y a plein, même comme adulte, il y a même des gens qui, je vais être très très loin en rapport avec l'héritage, je vais être celui qui va être le plus intéressant pour qu'on me couche sur le testament, je vais très très loin là, ça devient un peu incroyable quand on regarde toutes les formes que ça peut prendre au cours de l'existence. Mais c'est toujours associé à cette quête de l'attention de l'autre, associé au fait que je suis le plus intéressant ou la plus intéressante, associé au fait que c'est ce qui va me permettre de survivre. Et c'est ça qu'on a, c'est un défi de toute une vie.
Et je dois dire que quand tu dis ça, c'est ce qui m'explique aussi pourquoi on est autant dans la souffrance quand on ne l'a pas, parce qu'on a peur pour notre survie, littéralement, en fait, au fond du fond.
Au fond du fond, et le cerveau, c'est très, très clair maintenant, c'est un principe de base, je le répète constamment, ne fait plus la différence à notre époque entre la perception d'une menace à la survie et la perception d'une menace à notre ego, c'est-à-dire aux multiples représentations que nous avons de nous-mêmes à travers les images qu'on essaie de fabriquer tout au cours de son existence, en s'identifiant à toutes sortes de choses pour susciter de l'intérêt. Être le meilleur. Je m'identifie, c'est fascinant comme mécanisme. Je m'identifie à un joueur de tennis et je m'identifie au sens où j'espère qu'il va être le meilleur ou à une joueuse qu'elle va être la meilleure parce que je vais être bien si c'est le meilleur ou la meilleure parce que mon cerveau associe le fait qu'il a été choisi, applaudi, etc. à tout ce qu'il a vécu quand il était petit. Mais ça, si on prend pas le recul pour prendre conscience de cette mécanique-là, elle nous habite tous les jours, toute notre vie. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est capable de prendre le recul nécessaire pour observer, c'est le mot important là, observer ce processus dans la tête, qui est un processus quelque part très simple. Cherche l'intérêt, parce que c'est ce qui va me permettre, vieux mécanisme, évidemment que je rationalise pas quand je suis adulte, je me dis pas,
ben oui.
Je cherche l'intérêt parce que je vais survivre, là, si je
non.
Me dis pas ça comme ça. Mais c'est cette vieille mécanique qui est encore à l'œuvre. Alors, c'est pour ça que c'est si important de l'observer. Et à partir du moment où j'observe où est mon attention va aller, malheureusement, très, très souvent au cours d'une journée vers cette espèce de mécanique là qui est comme si j'étais en train de scanner constamment l'environnement pour essayer de détecter ou bien est-ce qu'il y a une menace à la possibilité que je sois intéressant ou intéressante ou qu'est-ce que je peux faire pour être le plus intéressant ou la plus intéressante. Ça va dans les deux directions.
C'est fou quand on y pense.
Comment tu dis?
Non, mais je disais c'est fou quand on y pense qu'on est en fait presque en éveil permanent, enfin aux aguets.
On se calme. On scanne, le cerveau scanne, l'organe scanne tout le temps. Oh là, je viens de dire ça là. Oh, peut-être que c'est pas la phrase la plus intéressante là. C'est pas dit comme ça, c'est pas analysé comme ça, mais c'est exactement ce qui se passe au niveau du fait de scanner là. Et peut-être que cette personne-là ne s'intéressera plus à moi maintenant. J'ai pas dit bonjour ce matin, j'ai oublié. Oh, peut-être que cette personne-là ne s'intéressera plus à moi maintenant. Oh, lui a dit une chose très intéressante pendant la réunion. Et parce qu'il a dit ça, mais peut-être que là maintenant, j'aurais plus l'intérêt que je cherche à avoir, tu sais, pour cette promotion, pour n'importe quoi. C'est constamment comme ça. Et c'est ça qui devient épuisant. Oui, souffrance, t'as tout à fait raison. Parce que dès qu'on commence à imaginer qu'on est moins intéressant que l'autre, la peur, c'est l'émotion qui est au cœur de l'activité, entre autres de l'ego, mais de tout ce qu'on vient de décrire, c'est la peur. Et cette peur-là devient littéralement là source d'inconfort. C'est pas confortable d'avoir peur. C'est pas du tout confortable. Et ça se fait en quelques secondes. Tout à coup, on a scanné le fait que on vient de dire quelque chose ou on n'a pas dit quelque chose ou on a posé un geste, peu importe, qui pourrait tout à coup nous faire perdre l'intérêt de quelqu'un dont on considère qu'il est très important d'avoir cet intérêt. Ça aussi, c'est fascinant, hein? Parce que des personnes, parfois je souris parce que je me dis tellement extraordinaire comme mécanique, tu sais, puis c'est au fond tellement simple, si on prend le recul et qu'on l'apaise, là. Il y a des personnes qui, je vais donner deux exemples. Il y a un humoriste extraordinaire aux États-Unis qui disait un jour que, hyper populaire, là, adoré, là. Il faisait un spectacle, puis tout le monde l'applaudissait dans la salle, là. Mais il disait, pendant le spectacle, le seul visage que je regarde, c'est celui qui ne rit pas. Le seul. parce que mon cerveau va vers lui, là.
Scanne.
Le danger. La menace. Lui ne rit pas. Ben, il y a un danger, là, que je sois pas intéressant. Il y en a 99 qui rient. Il y en a un qui rit pas, puis le cerveau, puisqu'il privilégie, ça, c'est un autre principe de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace, parce qu'il le fait pendant des millions d'années, va placer l'attention sur le personnage qui rit pas. Et il essaie de le faire rire. Il l'appelait même « the face », la face, le visage. Mais même, c'est pareil avec des univers où, tout à coup, il y a une personne de qui on voudrait être aimé, mais cette personne ne s'intéresse pas à nous. Et c'est très étrange parce que il y en a plein qui peuvent s'intéresser à ce que nous sommes, mais notre attention est dirigée puis nos efforts vers celle qui ne t'intéresse pas. Parce que le cerveau privilégie de placer l'attention sur ce qu'il perçoit comme une menace.
Donc, c'est mais c'est très vrai. Ce que tu dis, je suis désolée, je t'ai interrompu, c'est très vrai parce que le nombre de fois où tu sais quand t'essayes de rassurer quelqu'un ou de lui remonter le moral de quelqu'un qui se compare et qui dit « Ah non mais vraiment je suis nul par rapport à telle et telle personne » et tu peux lui citer en exemple « Non mais regarde, par rapport à telle ou telle autre personne, en fait, t'es super bon, t'es exactement là où il faut, bravo, c'est déjà formidable. » Mais on se compare toujours pour que ça soit dévalorisant vis-à-vis de nous. On se compare rarement en fait avec des personnes qu'on trouve moins bien pour se revaloriser. Et donc maintenant, grâce à toi, je le comprends beaucoup mieux.
C'est une vieille mécanique. Pendant des millions d'années, là, des millions d'années, il fallait scanner l'environnement pour être certain qu'il n'y avait pas de menace à notre survie. Aujourd'hui, le cerveau scanne l'environnement pour s'assurer qu'il n'y a pas de menace à l'ego, c'est-à-dire à l'intérêt qu'on pourrait accorder aux représentations qu'on a de soi-même, puisqu'on essaie toujours d'être unique, spécial, comme on l'essayait quand on était enfant, de faire la plus belle pirouette, d'avoir le plus beau dessin, d'avoir réussi une dictée sans faute, etc., pour continuer d'avoir l'intérêt. Nos parents pouvaient ne pas avoir volontairement, malheureusement, il y a certaines familles où ça se fait volontairement, tu vas être le meilleur, blablabla, mais dans la majeure partie des cas, c'est inconscient. Au contraire, c'est même l'effet pervers, entre guillemets, d'une bonne intention.
Ben ouais.
Et quelque part, c'est important, en tant que parent, là, je pars un peu dans une autre direction, mais de dissocier l'acte et l'être, là, t'sais, de pas faire croire à l'enfant que c'est parce qu'il a réussi à bien dire le poème de quatre lignes sans se tromper, qu'il est devenu, que c'est à cause de ça qu'on va s'intéresser à lui. On peut découvrir un talent, une capacité, un potentiel, puis créer un environnement où ça va pouvoir se développer. C'est super si on fait ça. Mais faut pas que l'enfant pense qu'il n'aura plus d'attention. Et petit cerveau, je vais mourir si je ne suis pas parfait, parfaite. Et qu'il laisse à se comparer à tout le monde pour être certain. Parce qu'être parfait ou parfaite, c'est facile de trouver quelqu'un qui a tout à coup mieux réussi quelque chose que, fait une plus belle pirouette que nous. Ou qui a eu 99% dans la dictée, alors que moi, j'ai eu 96. Alors, je suis pas le meilleur parce qu'il a eu 99. Puis là, si lui a eu 99, c'est lui à qui on va s'intéresser. Ou c'est elle à qui on va s'intéresser. C'est pas à moi. Parce que moi, je n'ai eu que 96. Au lieu de comprendre que, OK, là, je me suis peut-être trompé à tel endroit, mais là, je l'ai enregistré, je ne ferai plus cette faute-là. Tu sais, c'est comme j'ai appris ça, c'est merveilleux. Alors, et c'est cette distinction-là.
Et d'ailleurs, je pense donc les personnes qui avaient des facilités à l'école ou qui étaient souvent les premiers de classe ou dans d'autres domaines, tu vois, comme le sport par exemple, qui avait trop de succès, souvent ensuite beaucoup ce problème-là. Moi, je le vois autour de moi avec quelques amis ou collègues qui, parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas eu l'habitude de se tromper et de voir qu'on survit et que ça se passe quand même bien. Ce qui moi a été mon cas, bah finalement se compare beaucoup et en souffre parce que effectivement comme tu dis il y a toujours quelqu'un qui a réussi un petit peu mieux que toi. Enfin le monde est vaste hein, donc il y a forcément quelqu'un qui aura fait le petit truc un peu mieux différemment.
Absolument deux choses là-dessus. La première, moi j'ai jamais voulu faire l'apologie de l'erreur, là, mais en même temps c'est tellement merveilleux parce que on en fait toute sa vie, on se trompe à peu près tous les jours, quelque part, et c'est d'en devenir conscient, c'est un cliché, là, c'est un gros cliché que je vais dire là, mais c'est de devenir conscient de l'apprentissage que ça permet de faire, parce que c'est important, ce qui est merveilleux, puis ce qui est quelque part une source de plaisir même, c'est de faire un apprentissage, j'espère. Mais on est aussi dans une société, et ça c'est tous les jours aussi, où on nous présente des personnes qui ont réussi, qui ont gagné une médaille quelque part, un prix, et puis on a le cerveau regarde ces personnes-là et regarde aussi ce qu'on a l'impression que ça leur apporte, c'est-à-dire énormément d'attention, énormément d'intérêt, énormément d'affection, les applaudissements, etc. Et bien sûr, le cerveau réassocie ce succès, cette victoire, le fait d'être le meilleur dans son domaine, à l'amour, à l'affection qu'on lui porte, à la réussite de son existence. C'est des gros mots que j'ai prononcés, là. L'amour qu'on lui voue, la réussite de son existence. On lui voue l'amour parce qu'il a réussi, ou qu'elle a réussi, qu'elle est meilleure. Et là, ça retourne à très, très loin. Et c'est la sécurité. C'est la sécurité pour le reste de son existence. C'est le confort assuré. C'est le bien-être assuré. C'est l'absence complète de souffrance. Il n'y aura plus de souffrance. Au contraire, il va être dans l'extase ou il va être dans l'extase. Mais c'est un piège. Parce que ces personnes-là qui réussissent, qui gagnent une médaille, est-ce que le bonheur est assuré à compter du jour où ils ou elles ont gagné une médaille? Eh ben non. Parce qu'on regarde plein d'histoires terribles de personnes qui sont allées au sommet complètement là, de la pyramide et qui par la suite ont été piégées, pas toutes, mais plusieurs, par le fait qu'elles devaient demeurer au sommet de la pyramide pour continuer à recevoir ce que ça leur a permis de recevoir pendant une courte période de temps. Et là, c'est un piège énorme.
Parce que c'est une drogue, en fait.
Une drogue. Et c'est impossible de rester au sommet de la pyramide toute sa vie. Et est-ce que c'est être au sommet de la pyramide qui est garant de la réussite d'une existence? Comment définit-on réussir une existence? C'est la question qui émerge à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir sa vie? Et tu sais, moi, j'ai entendu une phrase, je me souviens pas qui l'a prononcée. Enfin, ça me reviendra peut-être. C'est un sage indien. Il disait, on peut mesurer la réussite de son existence au nombre de secondes au cours desquelles on a été présent ou présente dans sa vie. Autrement dit, l'attention n'est plus accaparée par est-ce que je vais être le meilleur, est-ce que je suis le meilleur, est-ce que je vais être le meilleur. L'attention est simplement là, complètement disponible pour observer ce qui se passe, parce que l'attention, il peut y avoir observation, je vais le dire autrement, il peut y avoir observation de là où est l'attention, est-ce qu'elle est dans le présent, complètement. Complètement. Et être dans le présent, ça veut dire aussi observer cette mécanique qu'on vient de décrire. Ça veut dire aussi observer le fait qu'on est en train de scanner. Il y a observation de ça. Bon, ça y est, je suis encore en train de me comparer. Bon, ça y est, je suis encore en train de porter des jugements à mon propre égard. Il y a ce jugement dans la tête. Être dans le présent, c'est observer le jugement à son propre sujet. Être dans le présent, c'est observer la comparaison qui est en train de se faire avec l'autre. Elle est plus belle que moi. Il est plus intelligent que moi. Elle est plus riche. Ah, c'est tellement extraordinaire ce qui lui arrive. Elle se promène dans le monde. Je le vois dans sur ses réseaux sociaux. Elle est maintenant à Bali, sur un bateau, en train de déguster des mets raffinés, parce qu'elle a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui est richissime et qui l'amène avec lui, etc. C'est ce genre de comparaison, là. Cette activité mentale, Pauline, parce que c'est une activité mentale. On est assis chez soi, confortablement, en train de déguster quelque chose qu'on adore, et tout à coup, ça part la comparaison, parce qu'il vient d'apparaître un message sur le téléphone.
Exactement.
On a une image de quelqu'un qu'on connaît qui est sur une pirogue, je sais pas quoi, dans un endroit exotique. Puis là, on fait, oh, j'ai pas ça, moi. Ma vie est pas réussie. Elle réussit plus avec moi, etc., etc. Et là, tout à coup, il y a l'inconfort qui s'empare de nous, la tristesse. On est bien, là. On est super bien. On est donc au chaud. On a tout ce qu'il nous faut. On déguste un thé vert qu'on a là. En une fraction de seconde, l'inconfort apparaît. Envahit complètement le corps. Parce qu'il y a eu ce texte, cette image, ce texto, cette photo, peu importe, qui est apparue sur le fait qu'on soit allé sur le réseau social d'un ami ou d'une amie. Je viens de m'acheter une nouvelle maison. Je viens de la redécorer. J'ai pas ça, moi. Puis c'est encore associé, là. Ça tourne derrière, là. Lui ou elle, si elle fait ce voyage-là, elle va recevoir, elle va attirer l'intérêt de plein de personnes. Parce que les gens vont s'intéresser à ce qu'il fait, à ce qu'elle fait. Elle s'est acheté une nouvelle maison, les gens vont s'intéresser à ce qu'il fait ou à ce qu'elle fait. Donc, je n'aurai plus, moi, cet intérêt-là. Tu comprends? C'est l'autre qui va l'avoir. Et on est assis chez soi, super bien. Et cette activité mentale est là. Et l'inconfort apparaît, la détresse, la... Ah, oh, puis là, j'ai raté ma vie, je passe à côté, je suis nul.
Ouais, je suis nul. Mais tu vois, ce qui est terrible, c'est que j'en souffre aussi, et je connais beaucoup de personnes qui en souffrent énormément, c'est qu'en fait, tu peux être suffisamment dans l'observation, comme tu le dis, pour t'en rendre compte, c'est-à-dire que tu te dis, non mais là, je suis en train de me comparer, ça n'a pas de sens, si on file la métaphore, cette fille qui est dans la pirogue... Bah en fait c'est son choix, mais moi je suis bien chez moi, j'ai pas besoin d'aller dans ma pirogue, et puis en tout cas bah elle a peut-être fait des sacrifices pour aller dans sa pirogue, donc tu vois il y a plein, on peut se justifier des trucs, mais au final le sentiment de sentir nul, de sentir qu'on n'a pas réussi à attirer l'attention comme tu le dis justement, eh bien en fait il reste là et il est très difficile de le chasser. Et d'ailleurs la question subsidiaire que j'avais pour toi, c'est est-ce qu'il faut le chasser ou est-ce qu'en fait finalement il faut juste l'observer, il est là et puis c'est comme ça.
Du fait qu'on puisse l'observer, là, mais qu'est-ce qui se passe? D'où vient cet inconfort? Cet inconfort vient de l'activité mentale. Cet inconfort est généré par cette comparaison. Là, je me rends compte, wow, c'est tellement extraordinaire de découvrir que c'est cette activité mentale inutile.
Merci de le rappeler.
Mais moi, parfois, je me dis, hey, regarde, il y a encore cette activité neurologique inutile, là. J'utilise cette expression, là. Il y a encore cette activité neurologique inutile qui est repartie, puis qui est associée à cette vieille peur de pas être assez intéressant, intéressante. Et c'est fantastique d'observer ça. Et d'observer que c'est encore là, que ça tourne, c'est comme le petit hamster, de pouvoir le réaliser comme ça, là, ça l'apaise. Parce que, on s'aperçoit que ce n'est qu'un processus. Que ce n'est qu'une activité mentale qui, au départ, possiblement, est le résultat d'une association que le cerveau avait faite, malgré des personnes bien intentionnées autour, mais qui, tout à coup, cette association, la peur de mourir, etc., bon, on demeure. Alors donc, l'observer d'abord, ça c'est très difficile. Et juste ça, là, d'apprendre à l'observer, là, on est tous et toutes capables de faire ça. Comme on est capable d'observer que notre attention n'est plus sur notre souffle, quand on fait un exercice, là, qu'on a simplement placé notre attention sur notre souffle quelques secondes, afin que l'attention ne soit accaparée que par la sensation du souffle, ben ça dure 2 secondes, puis l'attention est repartie. Mais repartie vers une agitation. Oh non, mais là, j'ai pas réussi à faire ça hier. Qu'est-ce qui va m'arriver? Juste d'observer cette danse de l'attention, là. Oh, l'attention est repartie. Ah, ah, ah. Et de la ramener, là. Juste ça, c'est pas facile à faire. Juste ça. Mais plus on arrive à faire ça, plus on entre dans l'observation, c'est encore cette activité neurologique là qui occupe toute mon attention, là, qui accapare toute mon attention, c'est incroyable. Ça s'apaise juste de le faire. Parce qu'on n'est plus en train de justifier. Le mot est très, 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 très bien choisi. On n'est plus en train de justifier. Oui, mais finalement, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à moi. Oui, finalement, je suis bien, je suis confortable. Ça, c'est encore une autre activité mentale qui essaie là, de faire disparaître la première. Il suffit simplement de faire... Oh, l'attention est encore accaparée par cette activité neurologique. Tiens, je me compare. Je me compare à elle. Elle est sur sa pirogue, là. Et elle reçoit présentement, je sais pas combien de j'aime, ou de, je sais pas comment dire ça, de clics.
Ouais.
2000 clics en une minute. Oh, wow! Chanceuse, en plus, elle est au soleil, etc. Mais qu'est-ce que je sais? Et là, je vais être un petit peu méchant. Mais qu'est-ce que je sais de sa propre activité mentale? Sur sa pirogue, en train de regarder le nombre de clics qu'elle reçoit, plutôt que de profiter complètement du son de l'eau qui coule, du décor. Est-ce qu'elle est coincée, elle aussi? Et là, c'est terrible parce que c'est pas en me comparant, en voulant diminuer l'autre que je vais régler mon problème. Je veux simplement expliquer ça pour dire que même si la personne semble être dans un univers où sa vie est exceptionnelle, extraordinaire, ça change rien à son activité mentale, à elle non plus.
Ouais.
Pendant son voyage, là, pendant quelques heures, ça va être merveilleux là, d'être assise sur la pirogue, là. Mais l'activité mentale risque de reprendre parce qu'elle vit le même piège que moi. Elle a été aussi coincée dans le fait que quand elle était enfant, il y a eu tout à coup l'association entre savoir, l'attention, l'intérêt et survie. C'est peut-être pas réglé là dans sa tête. Alors, la comparaison n'est pas bonne. Je me compare pas de façon adéquate. S'il y avait une comparaison qui tenait, là, ce serait jusqu'à quel point il y a eu apaisement de mon activité mentale par rapport à celui ou celle à qui je me compare. Est-ce que j'arrive à tranquillement à apaiser cette activité neurologique là de comparaison là? Et si c'est possible d'apaiser ça là, j'ai même plus besoin de me comparer là. Je n'entre plus dans la comparaison. Et si j'avais encore à me comparer, je pourrais même essayer d'aider l'autre à voir si oui ou non il y a encore cette activité mentale. Parce que son voyage, après avoir fait son voyage, puis qu'elle va être rentrée, est-ce qu'elle va vouloir avoir encore une autre activité qui va lui permettre d'avoir d'autres clics ou d'autres j'aime ou je sais pas trop quoi, parce qu'elle a encore ce vieux besoin elle aussi. Parce qu'on est tous aux prises et toutes aux prises avec ça. Donc, la vraie issue, le vrai chemin sur lequel on, là encore c'est un cliché, là, on doit s'engager, c'est qu'est-ce qui me permet d'apaiser ce piège, de sortir de ce piège, d'apaiser cette activité là qui est là tout le temps et aider l'autre à l'apaiser aussi. Puis après, mais si je vais en voyage, ce sera merveilleux, mais j'aurais peut-être pas besoin de publier des photos de moi à chaque minute pour savoir si les gens m'aiment plus parce que je suis là en train de faire quelque chose d'exceptionnel ou qui me rend extraordinaire ou bon, blablabla. J'en ai plus besoin. Je peux peut-être donner de l'information à ma famille pour leur dire que tout va. Mais c'est ça le piège des réseaux sociaux dont tu parlais au début aussi. Tu sais, c'est devenu un piège. On a l'impression qu'on va apaiser cette activité là de comparaison tout le temps là, parce qu'enfin on va avoir réussi à atteindre le sommet de la pyramide et que les gens se compareront à nous, mais que nous on se comparera plus à personne. Erreur. C'est en observant l'activité, en observant ce processus que cesse la comparaison, parce que ça s'apaise. On fait ah, tiens, c'est encore parti cette affaire là et là ça s'apaise là. Là, ça s'apaise. Et parce que ça s'apaise, ben là, on est complètement présent, là. Et là, on savoure pleinement la vie, là, pleinement. Les relations qu'on a avec les gens qui nous entourent, les paysages, les mets qu'on prépare. Et j'ai envie de dire que on n'entre plus dans le conflit non plus. Parce que bien sûr, avec la comparaison apparaît le conflit. Parce que malheureusement, dans la comparaison, on pense qu'on va arriver à en sortir en diminuant l'autre.
Oui.
En essayant de faire disparaître ce qui nous rend inconfortable chez l'autre, qu'on croit plus heureux, plus heureuse, ou qui a réussi, ou qui... Alors donc, tout à coup commence le commérage, commence le dénigrement, commence la critique, commence le blâme. Oh, oui, c'est vrai qu'elle est belle, mais t'as vu le vêtement qu'elle a choisi? Donc, il y a cette espèce encore d'activité mentale pour qui est là dans le jugement de l'autre, le dénigrement, dans l'espoir d'apaiser cette hyperactivité pour se replacer au-dessus, encore une fois. Donc, non seulement il y a l'agitation liée à la comparaison, mais il y a l'agitation qui émerge du conflit par la suite, qui apparaît inévitablement dans le dénigrement, dans le rabaisser, dans le diminuer, pour avoir l'impression qu'enfin, on est au-dessus. Enfin.
Ben c'est passionnant parce que en fait on se rend compte, et je pense qu'on en a tous un peu l'intuition, mais que finalement le dénigrement n'est qu'un indicateur qu'on est soi-même mal à l'aise, et au final ce qui est vécu souvent par les personnes extérieures comme un signe de cette personne se sent supérieure, en fait c'est tout l'inverse. C'est quand tu dénigres, souvent c'est que tu te sens moins bien et que tu te sens un peu en dessous, et donc on t'essaye de remonter quoi à la surface, on va dire. Mais c'est hyper intéressant la manière dont tu le décris.
Vieux mécanisme encore.
Ouais.
Dans la cour de récréation, c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. J'ai entendu des enfants dire ah ben c'est moi qui ai la plus belle carte Pokémon, et dire à l'autre toi t'es nul parce que t'as pas la meilleure carte Pokémon. Alors et on est dans la cour de récréation là, à 6 ans 7 ans là. Déjà il y a le dénigrement de l'autre pour se redonner une valeur. Donc, dans la tête, déjà, il y a la mécanique. Il y a le processus de la comparaison à l'autre à travers un objet. Cette fois-là, j'ai le plus beau petit camion, j'ai la plus belle poupée, je sais pas n'importe quoi. Versus, puis toi non, elle est affreuse, ta poupée, etc.
Mais je vois très bien. Alors, et c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que je pense que, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai des personnes autour de moi qui se comparent, je peux avoir le réflexe, parce que si moi je me sens pas concernée et que j'essaye d'aider quelqu'un qui est en souffrance, je peux avoir le réflexe de dénigrer l'autre personne. C'est-à-dire que en aide, je peux dire non, mais en tout cas t'en sais rien, cette fille dans la pirogue, si ça se trouve elle est très malheureuse. Enfin, je fais plein de, je vais pas forcément dire des choses méchantes, mais en tout cas je vais d'une certaine manière essayer de rassurer et essayer de compenser en dénigrant un peu d'une manière détournée, alors que c'est pas ce qu'il faut faire. Si j'entends ce que tu dis, c'est qu'il faut d'une certaine manière laisser l'autre observer et se rendre compte en fait qu'il est en train de comparer. Mais c'est vrai que ça nécessite beaucoup de self-control, on va dire.
En fait, c'est un entraînement, hein. Puis cet entraînement-là finit par permettre c'est l'apparition de la vigilance. La vigilance, qui est le mot qui décrit. J'utilise parfois les deux mots vigilance, conscience. Vigilance, conscience. OK, observe. Observe l'agitation. Et au fond, là, ce qui nous permettrait d'entrer dans ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire des êtres de relation, et non pas des êtres isolés les uns des autres, puis le dénigrement, bien sûr, nous isole les uns les unes des autres. Parfois, c'est important aussi d'arriver à se protéger, ça c'est sûr qu'il faut parfois se protéger, parce que il y a des personnes qui vont tellement être dénigrantes parce qu'elles sont coincées dans cette agitation mentale qu'il faut parfois se protéger, prendre une distance, parce qu'elles n'ont pas encore observé à quel point ça leur faisait mal à elles-mêmes d'être à ce point dénigrant ou dénigrante. Parce qu'à l'intérieur, sous des apparences de personnes sûres d'elles-mêmes, etc., est-ce qu'elles ont vraiment apaisé l'agitation? Est-ce qu'elles ont vraiment observé ce qui se passait? Puis est-ce qu'elles ont été en mesure d'entrer dans le calme? Ben, s'il y a des nigres, probablement.
Non. D'ailleurs, c'est drôle parce que j'avais noté comme question, une question qui revient tout le temps, c'est comment gérer des personnes toxiques quand on a des personnes toxiques en face de nous. Alors, toxique, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, des personnes qui peuvent être dans le dénigrement permanent, ou font en sorte qu'on se sente pas forcément bien, c'est pas toujours intentionnel d'ailleurs. Mais ce que tu dis, c'est que, si j'entends bien, il faut se protéger quoi de ces personnes-là, c'est-à-dire qu'on peut pas juste l'accepter, et donc être un grand sage juste qui accepte tout n'est pas non plus la bonne option.
Non. Moi, une phrase qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, ça vient d'un ami d'ailleurs que malheureusement j'ai perdu, il s'appelait Eugène. Mais Eugène disait, répète-toi, La phrase suivante, là, je ne peux pas changer l'autre. Je n'ai pas le pouvoir de changer l'autre. Mais je peux montrer à l'autre son intérêt à changer. Puis le proverbe chinois, je peux amener le cheval jusqu'à la fontaine, je peux lui montrer l'eau, mais je ne peux pas le forcer à la boire. Donc, devant une personne toxique avec laquelle j'ai parfois, je suis dans un milieu de travail, par exemple, où j'ai à travailler avec elle, parce que elle fait partie de l'équipe, ou on est sur le même projet, ou peu importe. Si ça devient beaucoup trop difficile, parce qu'elle dénigre les personnes autour, bon, etc., il faut que je me répète, je peux pas la changer, là. Je peux pas la changer. Mais je peux lui montrer son intérêt à changer. Mais après lui avoir montré son intérêt à changer, exemple, écoute, on a ce projet-là en commun, j'ai besoin de ton avis à propos du projet, et non pas des personnes qui sont autour de la table. J'ai besoin de ton avis à propos des objectifs et des moyens à utiliser pour les atteindre. On sollicite son attention vers quelque chose qu'on a en commun qui est de l'ordre du projet à réaliser, la mission à accomplir, etc. Mais si la personne ne veut pas, qu'elle continue à dénigrer, à cause du fait que ça... Et puis, je n'irai pas jusqu'à lui dire, ben, c'est ton agitation mentale, peux-tu apaiser ton agitation? Tu sais, bon, ça serait, elle se sentirait encore plus dénigrée. On peut éventuellement pouvoir s'asseoir avec quelqu'un, lui parler de ce qu'on a observé au sujet de l'agitation, puis comment calmer ça. On peut s'asseoir avec quelqu'un. Il peut être tout à coup curieux. Quelqu'un peut être curieux ou curieuse. Mais c'est quelque chose qui peut arriver dans le temps. Là. C'est pas au départ habituellement ce qui arrive. Alors donc, amener l'attention vers les intérêts communs, le projet, les objectifs. Mais si la personne ne veut pas, il faut mettre des limites. Parce que à partir de ce moment-là, puis se protéger. Parce qu'à ce moment-là, si la personne n'a pas trouvé, observé, pardon, ce qui se passait à l'intérieur d'elle, sa quête d'avoir l'intérêt, sa quête d'être la meilleure ou le meilleur va se poursuivre. Et ça va devenir très, très difficile. Parce que comme elle n'est pas apaisée, ben elle va continuer à se comparer, elle. Elle va possiblement continuer à dénigrer d'autres personnes, etc., etc. Ça fait pas d'elle, entre guillemets, une mauvaise personne. Et c'est ça qui devient l'objet de notre vigilance et de notre conscience. Est-elle apaisée? A-t-elle appris à observer l'agitation qu'il y a dans sa tête? A-t-elle peur de ne pas être la meilleure, parce que ça ne lui apportera plus l'intérêt dont elle croit avoir absolument besoin pour survivre? Parce que ça, c'est une énorme différence quand on vieillit, quand on grandit, on peut ne plus avoir l'intérêt de l'autre, l'attention de l'autre, et continuer à survivre, là.
Ouais.
Et à vivre, et à savourer l'existence. C'est pas parce que j'ai pas l'intérêt d'une personne que je peux pas continuer à savourer l'existence, parce que ce qui est en moi, je reprends encore la phrase de Marie de Hennezel, ce qui en moi ne vieillit jamais demeure intact. Ma capacité d'aimer demeure intacte, ma capacité de m'émerveiller demeure intacte, ma capacité d'apprendre demeure intacte, ma capacité de savourer demeure intacte, ma capacité de transmettre demeure intacte, tout ça demeure intact. Ma capacité de créer, je sais pas si je l'ai dit, mais demeure intact. Alors, tout ça demeure intact. Donc, ça n'est pas menacé, là, parce que l'autre ne m'apporte plus son regard, là. Donc, je peux continuer à vivre, parce qu'à travers l'expression de ces capacités-là, je vis pleinement mon existence, là. Je peux même contribuer au bien commun, là. Littéralement, à travers ma capacité de transmettre, à travers ma capacité d'aimer, je peux contribuer au bien commun. Alors que si je suis dans l'agitation mentale, la comparaison et le dénigrement, je suis essentiellement en train de soi-disant me protéger, mais je me protège pas vraiment. Parce que je suis dans le dénigrement, je suis encore dans l'agitation, là. Puis donc, l'inconfort que ça génère, la déprime parce que je me sens moins bon, l'hostilité parce que quelqu'un qui, à mes yeux, est meilleur, l'hostilité, la déprime, ce dont tu parlais tout à l'heure, l'envie, la jalousie, est-ce que c'est confortable? Se sent-on bien quand on est assis, confortablement en train de boire un thé vert et d'entretenir la jalousie dans sa tête, d'entretenir l'envie dans sa tête, parce que quelqu'un a quelque chose qu'on n'a pas, ou la jalousie parce qu'on a peur de perdre quelque chose qui va nous être enlevé, est-ce qu'on est bien? On n'est pas bien du tout. On est assis confortablement et ce n'est que ça, c'est cette agitation-là. Activité, hyperactivité. Mm. C'est une expression beaucoup utilisée dans notre société, l'hyperactivité. Trouble d'hyperactivité. On a ça. C'est un trouble. C'est pas un trouble, là. C'est pas un diagnostic psychiatrique, là. C'est le quotidien.
Ouais, ouais.
C'est ce trouble d'hyperactivité au quotidien qui génère la jalousie. L'eau qui génère l'envie. Oh, il y a eu cette voiture. Wow. Je n'aurais jamais cette voiture, moi, de ma vie, je serais incapable. Etc., etc. Quand je dis ça, dès que je chante dans l'envie, j'entre aussi dans un malaise, un inconfort organique.
Oui.
Organique. C'est vraiment là, les viscères puis tout ça là, c'est les hormones qui circulent puis c'est pas les hormones du bien-être, ce ne sont pas les hormones du bien-être, pardon.
Et tu vois là, ce dont tu me parles, c'est un vrai, il y a une forme de détresse ou en tout cas, je pense qu'il y a, comme tu le dis, hein, ce grand mal-être qui fait que je pense que les gens ont envie d'en sortir et trouvent que, comprennent que c'est un peu une maladie, quoi, d'une certaine manière, le mal de la comparaison. D'ailleurs, pour ça qu'on appelle ça le mal de la comparaison. J'avais une question que j'avais trouvée très intéressante de quelqu'un qui me disait, c'était un homme, moi je suis dans une situation difficile parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est très anxieux et en fait, je me rends compte que j'ai maintenant associé dans mon esprit l'anxiété avec la réussite. Et que plus je suis anxieux, plus je suis nerveux, plus je suis stressé dans mon travail, plus j'ai des bons résultats dans mon travail. Et donc là, il y a un mécanisme hyper vicieux qui était rentré, qui est que il y a du mal-être, mais il y a aussi une forme d'attachement, tu vois, à ce mal-être. Parce que cette personne se dit, bah, en fait, si je le lâche, je vais moins bien réussir. Et il y a vraiment une espèce de relation de cause à effet totale. Et ça, du coup, moi, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait pour gérer ce genre de problème et de cas qui doit bien arriver?
Oui. Ben, tu as utilisé encore un autre mot qui est très important, le mot attachement, là, parce que ce mot-là, et ça aussi, il faut faire attention, parce qu'il peut être associé à quelque chose d'utile dans certains cas. Bon, faut être très, très prudent, là. Puis, quand je dis ça, être utile, c'est qu'il y a beaucoup de théories sur le principe d'attachement de l'enfant aux parents. Moi, j'aime mieux utiliser un autre mot que le mot attachement, là. Parce que le mot attachement implique une espèce de nœud auquel on est parfois un peu coincé. C'est une question de vocabulaire, là. Mais je considère que le mot attachement, il faut le regarder avec, ouais, mais si je perds ça, est-ce que je vais perdre tout ce qui va avec? Et là, faut donc que je garde cette, entre autres, là, cette anxiété, il faut que je la conserve, cette anxiété, parce que si je ne l'ai plus, je n'obtiendrai plus ce que cette anxiété me permet d'obtenir. Là oui, c'est le nœud, là. Alors que si ouais. Je me libère de cette anxiété-là et que j'entre dans la paix, est-ce que je vais encore réussir? Bon, là-dessus, il y a au moins deux ou trois choses là, importantes à dire. Et le mot « stress », est un mot qu'on distingue du mot anxiété. Le mot stress, là, c'est une vieille réaction qui me permettait d'entrer en mouvement pour assurer ma survie. Quand il y avait perception d'une menace associée à un prédateur, etc., le cerveau sécrétait toutes les hormones du stress, cortisol, adrénaline, noradrénaline, pour me permettre de lutter, me protéger donc, ou de fuir, me protéger, ou de figer pour me cacher, me rendre immobile et me confondre avec le paysage, là, comme certains animaux font. Ces trois réactions-là sont encore là. C'est très, très primitif. Et donc, une réaction de stress, avoir le trac, par exemple, avant de livrer une performance sur scène pour des artistes, ça permet, dans certains cas, de libérer toutes les hormones qui font que le corps va être prêt à passer à l'action. Parce que c'est ça, c'est un passage à l'action, la lutte ou la fuite. Et même s'immobiliser, là, mais dans le buisson, ils sont toujours cachés dans le buisson en espérant que le vent soit dans la bonne direction. Tout ça est de l'ordre d'une forme d'action pour assurer la survie. Alors, des personnes qui ont besoin d'avoir le trac pour pouvoir performer, mais ça dure pas, ça. Le trac précède la performance commence dans le sport, dans le monde artistique, peu importe. Et ça peut faire en sorte que la personne fonctionne. L'anxiété, c'est pas ça. L'anxiété, c'est encore une agitation mentale, et peut-être que la personne qui t'a écrit confond les deux, je sais pas du tout. Là.
Ah oui, je pense. Et moi aussi, d'ailleurs.
parce que l'anxiété, c'est l'agitation mentale. Il est 3 heures du matin, j'ai toujours ça, je me réveille tout à coup. Et là, je commence à imaginer les scénarios catastrophes liés au fait de ne pas performer, de ne pas réussir.
De voir tous les risques associés à tel ou tel sujet.
Tous les risques. D'avoir un risque peut me permettre de me préparer, de bien voir un risque. Ah, ça, j'ai pas prévu ça. Je peux même me lever à 3 heures du matin, là, puis aller prendre une note, là. Ah, parce que je l'avais pas vu, celle-là. Je vais me préparer, je vais aller chercher. Je fais une petite recherche dans un livre, et puis, pac. Ah, ça y est, là, je me sens mieux. Donc, de l'avoir perçu peut m'aider à me préparer. Mais l'anxiété, c'est pas ça. L'anxiété, c'est strictement un scénario catastrophe avec des images, presque un théâtre dans la tête de l'échec, là. Je vais avoir un blanc de mémoire. J'y arriverai pas, je vais me tromper dans ma présentation. Puis là, de voir tout à coup les gens qui, devant réagir, c'est n'apportent plus le regard que je voudrais avoir, encore une fois, de leur part, etc. C'est donc imaginer, construire un scénario catastrophe associé au besoin d'être apprécié, le vieux besoin d'être apprécié, ou de tout réussir à la perfection, encore une fois. Là. Les deux éléments de base, là. Ces deux vieux éléments de base, là, si je ne réussis pas à la perfection, je ne serai plus apprécié et ma survie est menacée inconsciemment. Là, on entre dans le scénario de l'anxiété. Là. Donc, il faut que je réussisse à la perfection pour être apprécié. Sinon, ben, je risque d'être exclu, d'être rejeté. Et tu sais, quand on était exclu ou rejeté dans le clan jadis, ce qui était menacé, c'était encore la survie.
Ouais.
C'est l'autre affaire. Seul, à une certaine époque, c'était beaucoup plus difficile de survivre que si on faisait partie du clan. Donc, on voulait pas être rejeté, on voulait pas être exclu. Donc, comment on peut rester membre du clan? Comment peut-on vouloir encore de nous? C'est encore le même principe. C'est archaïque, mais c'est encore là. Donc, l'anxiété, elle émerge d'une perception d'une menace à notre bien-être, conditionnée par le vieux besoin de tout réussir à la perfection et d'être apprécié. Les deux sont là en même temps, ils sont liés l'un à l'autre. Ça, c'est l'anxiété, ça. Ça, c'est comme, je suis dans mon lit à 3 heures du matin, puis je construis des scénarios catastrophes liés à une perception d'une menace à mon bien-être, là, associé à ces deux besoins s'ils ne sont pas comblés. Besoin de tout réussir, besoin d'être apprécié. Alors que le stress, la réaction de stress, moi j'aime bien le mot trac, là. Ça m'arrive encore de le vivre régulièrement quand je vais donner une conférence, les papillons. Il y a un petit bout qui peut être une perception d'une menace, là, mais il y a aussi quelque chose qui me fait réviser, qui me fait me préparer adéquatement, et pour entrer dans la salle de conférence et commencer à raconter. Donc, c'est bien de distinguer les deux. Parce que si je suis dans le scénario de la perception, la construction, pardon, de scénario catastrophe, mon attention est dans l'avenir, elle n'est plus dans le présent, en train de me préparer adéquatement. Ou si elle va dans l'avenir, elle est en train de scanner, je reprends ton mot, les risques que j'imagine, ils sont peut-être pas réels, là, mais les risques pour lesquels je peux me préparer davantage. Il y a un exemple qui revient à l'esprit. J'avais accepté de donner une conférence en anglais, une formation en anglais, toute une journée, en Ontario il y a quelques années. Et là, je me réveillais à 3h du matin régulièrement en train de construire des scénarios catastrophes. Les mots ne viendront pas. Je trouverai pas les phrases justes, etc. Et là, je dormais pas. J'avais bon. Bon, je me suis dit, OK, faut que je me prépare. Je me suis acheté une petite enregistreuse et je me suis mis à faire la conférence dans le sous-sol de la maison où j'habitais à l'époque, en enregistrant. Et après ça, je portais mon enregistreuse avec moi. Et quand j'étais dans une file d'attente quelque part, j'écoutais pour bien l'intégrer, bien l'intégrer. Donc, j'étais en mode préparation. Mon attention était dans le présent, en train de travailler sur la préparation plutôt que d'être dans le futur en train d'anticiper la catastrophe. Quand elle allait dans le futur, c'était pour scanner ce pourquoi il fallait que je me prépare davantage. Et non pas le scénario catastrophe. Être capable de distinguer les deux, là, faire les nuances. Et ça, c'est encore de la vigilance. Est-ce que mon attention est dans le futur, dans le scénario catastrophe? Ça y est, mon attention est essentiellement dans la catastrophe. Ou si elle est dans ce qui pourrait m'amener à me préparer davantage. Et revenir dans le présent pour faire la préparation, aller lire, s'il manque un mot, là, qui monte pas spontanément, ben, aller chercher le mot dans le dictionnaire, ou, à l'époque, c'est le dictionnaire, maintenant, c'est sur Internet, ou je sais pas quoi. Je m'amuse. Alors, voilà, donc,
Alors, je connais pas cette personne, donc je ne sais pas si c'est de l'anxiété ou du stress, mais si je comprends bien ce que tu dis, c'est que dans le cas du stress, au final, ce qui est formidable, c'est que ça nous, c'est comme un signal, quoi, pour dire, il faut plus te préparer à tel ou tel sujet, et donc finalement, c'est plutôt bien. L'anxiété, à l'inverse, elle n'apporte pas grand chose, parce que, en fait, elle se projette sur des scénarios qui sont pas probables, en tout cas, donc il y a même pas de préparation, quoi.
Absolument. C'est vraiment, là. Le stress va monter. Il y a eu perception d'une menace. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas perception d'une menace. Là, ça peut être une menace à un projet que je nourris d'avoir une promotion. Ça peut être une menace à ma réputation. Ça peut être une menace. Oui, il y a perception de ça, une fraction de seconde. Mais en même temps, il y a décharge d'adrénaline, cortisol pour préparer à passer à l'action. Mais si je passe pas à l'action, là, il y a un problème. L'anxiété, s'il n'y a pas de passage à l'action, là, il y a strictement le scénario catastrophe, là, de la menace qui occupe tout l'espace, là, au bien-être, menace au confort, menace à ce qu'on va, parce que ce qu'on va dire de moi, perdre encore l'intérêt des autres, besoin de réussir, d'être approuvé, apprécié, aimé, bon, etc., etc. Je mets ça, des mots en A. Apprécié, approuvé, aimé, ce besoin-là, là, tous les mois. Alors là, l'anxiété.
Anxiété s'en est aussi. Non, mais c'est du coup, en fait, l'action peut aider à mieux se préparer et donc à finalement guérir, quoi, son stress. La question quand même que je trouve intéressante de cette personne, c'est, je sais pas du coup si c'est du stress ou de l'anxiété. Je pense que si c'est de l'anxiété, en tout cas, de toute façon, le sujet, c'est ça peut pas être résolu par l'action, puisqu'en tout cas, bah, c'est de l'anxiété, donc il y a pas d'action. C'est juste qu'en fait, il faut être dans l'observation. Si je reprends tes principes, la vigilance, pour se dire, ah bah là, je suis en train d'être anxieux, et donc au bout d'un moment, j'imagine que ça finit par partir un petit peu. Bon, en tout cas, on est apaisé avec. C'est un peu ça, ce que...
Oui, je suis dans l'anxiété, mon agitation. Tiens, l'agitation mentale, encore une fois, le hamster, là, est en train d'imaginer uniquement les scénarios catastrophes. Là. C'est ça qui se passe actuellement. Il y a observation de cette activité mentale. Là. C'est ce qui se passe. Là. Cette tempête, là, cette espèce de tapage, là, c'est strictement ça. Il n'est pas lié à quelque chose de constructif. Des pensées utiles, pleines de créativité, c'est pas associé à ça. Le trac, je le porte. J'ai encore le trac. Lorsque je donne une conférence, mais je le porte et j'observe tout à coup la dimension. Ah, il y a encore une imagination que je veux me tromper. Ramène ton attention, reviens ici dans la préparation de la conférence. Ramène l'attention sur le passage dont tu ne te souvenais pas. Retrouve ce passage. La personne dont tu veux citer le nom, retrouve la personne dont tu veux citer le nom. Là, je suis dans l'action. Là. Toc, 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 toc. Préparation adéquate. Donc, l'inconfort m'a amené à me préparer, mais l'attention n'est pas restée dans ce qui génère l'inconfort à travers le scénario catastrophe. Alors, au Québec, on dit « je vais me planter », ça veut dire que je vais trébucher, je vais tomber, c'est comme si j'allais tomber en pleine... on dit en pleine face au Québec, ça, le visage, bon, etc. Ça, c'est pas constructif, je vais me planter. OK, qu'est-ce qui manque? Je répète ce passage-là. Quelqu'un qui fait du théâtre, quelqu'un qui va sur scène chanter, j'imagine doit faire la même chose. Moi, je chante pas, mais... Ah, il y a... Je vais répéter la chanson pour être capable de la livrer. Je la répète, je mets mon attention dans ça.
Bah écoute, j'espère que ça va aider la personne concernée à essayer d'identifier en tout cas la différence entre stress et anxiété. Et moi, tu vois, du coup, tu m'as bien appris la différence. Donc, je pense que j'essaierai à l'avenir de me dire que finalement, mes petits coups de stress, ils sont assez utiles parce qu'effectivement, c'est juste un signal quoi qu'il faut que je me prépare plus. Et sans doute, si je suis stressée, c'est parce que je suis pas assez préparée en réalité.
Il y a ça, puis c'est tellement rapide, hein. Dans une fraction de seconde, la tension peut aller dans le scénario catastrophe. Ça bouge tellement vite là, dans la tête, là, la danse de la tension. Et en même temps, c'est formidable parce que ça me permet d'apprendre à observer où est la tension. J'ai un inconfort. Ah, c'est un signal pour activer pour permettre à la vigilance d'apparaître, là, la conscience là qui observe où est la tension là. Ah tiens, c'est un signal, oui, mon attention, là. Est-ce qu'elle est dans le scénario catastrophe? Et puis finalement, si j'y arrive pas, ben j'en mourir. Il y a ça aussi. Si j'y arrive pas là, à livrer la performance, entre guillemets, je vais j'en mourir. C'est pas facile parce qu'inconsciemment, il y a cette vieille mécanique là. Je le répète, je vais j'en mourir de ça. Apaise-toi là. Prépare-toi. Et si, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, si jamais c'est pas à la hauteur, OK, est-ce que c'est garant d'un échec de ma vie? Est-ce que je peux encore apprendre? Et surtout, est-ce que je peux apprendre à apaiser cette hyperactivité-là? Parce que, j'ai oublié de dire ça, mais j'ai une croyance que l'expression du plein potentiel d'une personne, c'est dans la présence que ça arrive, cette expression, et non pas dans l'agitation.
Ça, c'est très intéressant. Donc ça, toi, tu penses que le plein potentiel, il est vraiment quand on arrive à se libérer quoi de toutes ces pensées automatiques du petit hamster dont tu parles souvent.
Quand on s'apaise, quand on arrive à l'apaisement de ça, là, puis qu'on a l'attention complètement dans la présence, là, tout le potentiel peut s'exprimer. Là. Petit exemple très simple. Je peins un tableau. Tout à coup, l'agitation commence. Est-ce qu'on va aimer ça? Attachement au tableau à travers l'identification au tableau. Je suis le tableau. Je peins. Est-ce qu'on va aimer ça? Vieille mécanique, si on n'aime pas le tableau, on ne m'aime pas. Parce que je me suis identifié au tableau, je suis attaché, là, j'ai ce lien d'attachement au tableau. Là. Pendant un certain temps, l'agitation mentale va faire en sorte que je vais être en train d'évaluer la qualité du tableau à partir de ce que les gens pourraient dire au sujet du tableau. Alors que si j'apaise ça, s'il y a apaisement de ça, j'aurais même dire, s'il y a apaisement de ça, toute la créativité est disponible pour mélanger les couleurs, tracer les lignes, peu importe, et non pas l'attention accaparée par qu'est-ce qu'on va en penser. Si je mets un peu plus de bleu, on n'aimera peut-être pas ça. Si je mets un peu plus de rouge, peut-être qu'on va dire que c'est une croûte ou je sais pas quoi. Ramène l'attention ici, dans la créativité, l'harmonie que ta présence permet d'observer. C'est là qu'est le potentiel. C'est là qu'est la créativité. C'est là que sont les talents, quelle expression du talent Et non pas dans est-ce qu'on va aimer ça ou non. Est-ce qu'on va m'aimer ou non parce que je suis devenu le tableau. Le bleu et le rouge, wow, il y a une harmonie là qui amène dans le corps une sensation de confort. Il paraît que Mozart, je sais pas, c'est une histoire qu'on m'a racontée, que Mozart, quand il composait, à un moment donné, il savait que ça allait bien parce qu'il y avait une espèce de goût qui apparaissait dans sa bouche, agréable. T'sais, il y avait tellement de... Il sentait, il voyait, il entendait l'harmonie, je sais pas trop, là, mais il y avait aussi une espèce de sensation agréable au niveau d'un goût qui apparaissait. T'es pas en train de se demander ce qu'on va aimer ça ou non.
Ouais.
Il était dans l'expression complète, j'imagine, en tout cas, l'harmonie qu'il entendait. Et c'est vrai pour n'importe quel artiste, mais c'est vrai aussi pour toute personne qui est dans un mode de création. Ou, ça peut être dans le sport, ça peut être dans n'importe quoi. L'expression, la danse, je souvent dis ça. Est-ce que ce geste est approprié versus sentir le mouvement, tout simplement? L'attention est complètement dans la présence, dans la sensation du mouvement et non pas dans est-ce qu'on va aimer ce mouvement? Parce que je suis devenu le mouvement, je me suis identifié au mouvement, je me suis attaché au mouvement, versus le sentir totalement dans la présence. Et là, la créativité. Et là, le talent. D'ailleurs, c'est ce que les coachs maintenant, entre guillemets, de sportifs, parce que les sportifs ont des coachs maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de les aider à ramener leur attention complètement dans le présent, sur le geste. J'ai pris l'avion un moment donné avec une plongeuse québécoise qui avait gagné une médaille aux Olympiques. J'étais assis à côté d'elle par hasard. Et là, j'étais... Racontez-moi ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes sur la planche. Là. Et là, elle racontait, c'est tout simple. Je suis en train complètement d'être dans les sensations, là, la visualisation. Et c'est un gros défi parce que il pourrait y avoir l'attention, une fraction de seconde qui s'en va dans « Comment ça m'est arrivé ici? J'échoue. » Versus visualiser les mouvements et refaire ça tout le temps. Là, toute l'attention dans la présence au mouvement, aux sensations. C'est ce qu'elle racontait. Alors, et les coachs, c'est ça qu'ils font. Ils essaient de les aider à ramener l'attention là, dans la vigilance. Je pense qu'il y a là le potentiel, vraiment, 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 vraiment. Et tout est obstacle. Tout le reste, l'agitation, parlez-moi, l'agitation, c'est un obstacle.
C'est drôle, cette histoire avec la plongeuse me rappelle un épisode de podcast que j'avais fait une fois avec une championne de karaté qui a gagné les championnats du monde. Et j'avais posé un peu cette question, j'avais dit, mais le jour où tu as gagné les championnats du monde, est-ce que tu peux me décrire en fait ce qui s'est passé dans ton esprit? Et elle me dit, ce qui est assez fou, c'est que je m'en rappelle très très bien, c'était un moment de grande paix intérieure. Je ne pensais à rien. Et d'ailleurs, elle m'avait dit qu'elle était dans une espèce de flow où elle... c'est comme si le temps était arrêté. Elle se voyait agir avec énormément de lenteur, mais de précision en même temps. Et elle était dans un espèce d'état, si tu veux, de bien-être, quoi, en réalité, alors même qu'elle était en train de se battre. C'était hyper intéressant. D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'écouter ce passage, c'est très, très fort.
Elle était dans la présence.
Elle était dans la présence, sans doute.
Complètement dans la présence. Le flow, la paix intérieure. La paix, elle a même utilisé le mot paix.
Totalement.
Il n'y avait plus cette agitation. Puis ça, c'est...
Mais ça va dans le sens de ce que tu dis, que cette paix, en fait, suscite le succès. Et donc, on en revient à la question de mon cher... de cette personne qui m'a dit, de mon cher auditeur, qui m'a dit « Mais moi, j'associe mon anxiété au succès. » Mais en fait, non, la preuve, là... c'est cette paix intérieure qui permettrait d'être encore plus créatif ou encore meilleur finalement dans son travail.
Tout à fait. Il peut même y avoir observation du moment où il y a le stress qui apparaît, observation, c'est tellement important ce mot-là, Pauline. Observation sans jugement, là, sans aucun jugement, juste une observation. Oh, il y a cet inconfort qui est là. On amène l'attention sur l'inconfort, etc. Et là, tout à coup, là, apparaît cette espèce de paix, là, qui dure quelques secondes, mais cette espèce de paix. Et c'est cette paix intérieure-là là, qui fait que toutes les ressources sont mobilisées, les talents peuvent se développer, le potentiel, les capacités, les ressources. Et le trac peut amener une action, peut amener...
Serge, écoute, en réalité, j'ai encore pas mal de questions, mais j'ai quand même envie cette fois-ci, puisqu'on l'avait pas fait la dernière fois, de te poser quelques questions sur toi. Avant de terminer cet épisode, parce que je serais trop déçue de pas te faire passer ce que j'appelle mon crible, qui sont un peu les questions que je pose à chaque fois sur ce podcast. Et la dernière fois, j'étais tellement prise justement dans le flow de notre conversation que j'avais pas eu l'occasion de te les poser. Bah là, du coup, j'aimerais bien quand même clore la conversation sur ces questions personnelles, si tu l'acceptes.
Avec plaisir.
La première de ces questions, justement pour essayer de revaloriser le droit à l'erreur, est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais nous parler et l'enseignement ou la conclusion que tu en as tiré?
J'ai vécu plusieurs périodes très très difficiles. Je ne sais pas si on peut appeler ça des échecs, mais des périodes où j'étais tellement mu par le besoin de performer, d'être le meilleur, etc., que je me suis même retrouvé un jour aux soins intensifs à l'hôpital. Je suis ému quand je parle de ça parce que c'est pour montrer jusqu'où ça peut conduire avec une hémorragie digestive massive. On voulait à tout prix m'opérer d'ailleurs, et je refusais parce que je savais ce qui s'était passé. J'avais pas le mot anglais qui m'ont drivé, t'sais, mu par le besoin d'être au sommet, puis d'être intéressant, puis bon, tout accomplir à la perfection, puis et c'était à la fois dans des relations au travail puis dans les relations à l'extérieur du travail aussi. Alors quand je me suis retrouvé aux soins intensifs, il y a deux amis qui sont venus me rendre visite, deux amis médecins. Et ils entrent dans la chambre, puis là, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites ici? Puis là, ils me regardent, puis ils me disent, non, qu'est-ce que toi, tu fais ici? Et j'ai fait, ouf, wow, qu'est-ce que moi, je fais ici? Alors, et c'est important, cette question-là, parce que, bon, j'ai guéri, grâce à des bons soins et tout ça, mais j'ai réalisé que c'était pas terminé, que j'avais pas fait un apprentissage définitif à travers ce que mon corps m'avait raconté, je dirais, ou avait raconté plutôt, parce que je n'ai pas séparé là. Le corps avait raconté une histoire, j'en peux plus. Le corps avait dit j'en peux plus, et le corps avait dit ben regarde, moi je ça craque. Ça perfore, ça saigne. Alors, c'est ça qui est arrivé. Donc, après, c'était, OK, c'est le travail de toute une vie. C'est tous les jours. Ce qui est merveilleux, c'est que plus on met en application cette observation, plus la vigilance apparaît, moins longtemps l'attention est accaparée par le besoin de performer, mu ou par le besoin d'être apprécié, encore l'enfant au pied de l'arbre de Noël, tout ça. Donc, ça reste moins longtemps dans ça. Ça apparaît moins fréquemment aussi parce que, tout à coup, il est possible de découvrir les pièges dans lesquels on pourrait tomber, là. Ça apparaît, la comparaison, là. Et tout à coup, elle est immédiatement observée. Et tout à coup, il y a immédiatement... Ça y est, l'agitation mentale a recommencé. Là. Il y a même un sourire, tu sais. Ça y est. Parfois, on me dit, souris. Autour de moi, j'en dis pourquoi tu souris. C'est parce qu'il y a eu observation de l'agitation mentale qui vient de commencer là, suite au regard porté sur une photo publiée par un ami qui est quelque part, je sais pas quoi. Mais là, c'est parti. Ou le succès, au lieu de d'entrer dans la comparaison, il y a eu observation, puis là, il y a tout à coup réjouissance du succès de l'autre, pour l'autre. et non pas dénigrement. Il y a réjouissance. Ah, oh, je suis content pour lui. Je suis content pour elle. Donc oui, il y a eu des périodes comme ça, très difficiles. Il y a eu des moments, j'ai vécu comme tout le monde, j'ai vécu une rupture amoureuse tôt dans ma vie, où j'ai eu peur de devenir fou, complètement, là, je me confie vraiment. Et puis tout à coup, un jour, je n'oublierai jamais ça. J'étais en train vraiment de... Il y avait une espèce de jugement sur moi-même. Je vaux pas la peine, je suis pas assez intéressant, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. C'est pour ça qu'elle veut pas de moi, blablabla. Tu sais. Activité mentale. Jugement sur soi. Elle est avec un autre qui est plus intéressant que moi. Ça tournait tout le temps. Et tout à coup, un mois de mai, j'oublierai jamais ça, c'était un mois de mai. Je suis sorti à l'extérieur, c'est le printemps ici. Les bourgeons explosaient, il y avait une lumière tiède, confortable. Et là, je m'ai ressenti une sensation de bien-être, Pauline, là, mais tellement grande à contempler tout ça, là. Les parfums, la terre qui dégèle, là, tout ça. Là. Et là, j'ai fait, mais je peux vivre sans elle. J'ai prononcé cette phrase-là. Donc, il y avait l'attention sur la capacité de m'émerveiller, qui est intacte, qui réapparaissait, la capacité d'aimer aussi. Il y avait comme l'attention était rebranchée sur ça. Et puis, je n'ai plus jamais eu cette peur-là par la suite. Mais ça a été très, très difficile, cette période-là. Ça a duré plusieurs mois. Alors, donc oui, c'est comme ça qu'on apprend, hein, les êtres humains, tous et toutes. On vient pas au monde avec... une espèce d'armure qui nous protège contre toute forme de peur, contre toute forme de... D'ailleurs, la peur peut être utile pour assurer la survie. Donc, c'est pas tout le monde qui va nous aimer, puis c'est pas toutes les personnes dont on voudrait être aimé qui vont nous aimer, puis c'est pas... Tout ça, on vit tous et tout ça. C'est l'agitation qui part, qu'on peut se mettre à observer.
Je te remercie d'avoir accepté de nous confier ça. Serge, si jamais il y avait quelque chose à refaire dans ta vie personnelle ou professionnelle, qu'est-ce que tu referais différemment?
J'aimerais pouvoir apprendre plus tôt dans ma vie, avoir appris plus tôt dans ma vie à observer cette agitation-là.
C'est arrivé vers quel âge pour toi?
J'ai commencé à m'intéresser à ça, mais c'était strictement théorique. C'était pas encore intégré, là. Je commençais à m'intéresser à ça, adolescence, jeune adulte. Mais c'était strictement théorique. Je lisais des bouquins, puis même je suis tombé dans le piège de fabriquer une image. Ben, moi, je vais savoir plein de choses, là, que les grands sages nous partagent. Puis il y avait une espèce d'image encore de pouvoir me rendre intéressant à travers ça, puis un attachement à cette image-là. C'était pas... au quotidien, observer ce qui se passait comme agitation, puis l'appliquer dans mes relations aux autres, etc. C'était pas ça. J'étais encore dans le piège. C'est arrivé après, je dirais, progressivement, au cours de la vie. Je travaille encore là-dessus, d'ailleurs, beaucoup. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, si c'était possible, cependant, tu vois, l'année dernière, c'est pas une publicité que je fais, là. J'en parle parce que ça m'est apparu à cause de ta question. J'ai écrit un petit livre qui s'appelle « Ça chauffe là-haut en France ». C'est le petit pensouillard au Québec qui s'adresse aux parents pour les aider à observer l'apparition de l'agitation mentale dans la tête de leur enfant. Les aider à observer l'apparition du petit hamster qui court à 6 ans, 7 ans. Ben, je suis nul, puis l'autre est plus... Moi, je suis trop grosse, puis etc. Tout ce que les enfants peuvent déjà commencer à dire à leur sujet. Ils arrivent de l'école, puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui a été dénigrant, puis ils ont intégré ça, ils ont commencé à faire courir ça dans leur tête. Alors, si il y avait quelque chose à changer, puis c'était pas du tout, mes parents ne savaient pas ça, ça intéressait pas à ça, etc. S'il y a quelque chose qui pouvait être fait, ce serait d'apprendre plutôt à apaiser l'agitation mentale. Tu vois, j'ai deux petits-fils maintenant, puis... j'étais avec eux à Noël en France parce que notre fille habite en France. Puis le plus jeune, qui a 5 ans, arrive devant moi pendant la période des fêtes, puis il sanglote, il pleure, puis il est agité. Puis mon grand frère m'a dit que j'étais un bébé. Là, je l'ai regardé, puis j'ai dit, « Le crois-tu? » Là, il me regarde surpris, tu sais. « Le crois-tu? » Là, il s'aperçoit qu'il peut ne pas le croire. Tout à coup, là, ça fait, je suis pas obligé de croire ce qu'il me dit. Il a dit non. Et il est reparti jouer. Ça a essayé de tourner. Je suis un bébé.
Il a coupé directement le hamster, là, la roue.
Il a arrêté. Il a pas laissé ça tourner. Et le lendemain, c'est drôle parce que sa mère était avec nous quand j'ai fait ça. Le lendemain, il recommence. Il m'a encore dit que j'étais un bébé. Puis là, c'est sa mère qui a dit, est-ce vrai? Est-ce vrai? Non, c'est pas vrai. Et s'il avait dit c'est vrai, je suis un bébé, là on serait assis là. OK, c'est quoi pour toi être un bébé? Tu sais, pour ébranler ça. Là. Donc, si c'était à refaire, j'aimerais ça pouvoir avoir appris ça plus tôt. Parce qu'il y a tellement d'agitation inutile qu'il y a eu pendant tellement d'années. Il y en a encore aujourd'hui. De temps à autre, mais à moins. Hein. Il y en a moins. Mais c'est mon Dieu, que je me serais épargné plein de souffrances inutiles. Plein. Je serais peut-être jamais allé aux soins intensifs. Mm. Je me serais peut-être jamais retrouvé là. Alors, donc, mais en même temps, ça n'a pas été possible. J'ai eu à apprendre ce dont on parle dans le parcours que suivi. Puis aujourd'hui, ben je suis conscient que c'est un travail qui continue. Et j'ai le privilège de pouvoir le partager avec d'autres, à travers des personnes comme toi. Et ça, c'est merveilleux aussi.
Et on t'en remercie d'ailleurs. On t'en remercie parce que je pense que tu aides vraiment en profondeur énormément de monde. Donc, encore merci à toi, Serge. Écoute, j'ai peut-être une dernière question pour toi. Je voulais te demander le meilleur conseil qu'on t'ait donné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit?
Qu'on m'ait donné. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Oh là là. C'est peut-être ça. Parce que ces mots-là, deux mots, mais qui ont ouvert toute une réflexion. Sois présent. Sois présent. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sois présent. Comment on se travaille? Cherche, découvre. Qu'est-ce que ça veut dire, sois présent? Mais ça peut se faire immédiatement. En une fraction de seconde. Sois présent, c'est pas le résultat d'un travail qui... C'est important, il y a une nuance importante. Là. Un jour, je serai présent, tu sais. C'est pas un jour, je serai présent. Quand je serai rendu là, non. Découvre ce que c'est tout de suite. Mm. Puis découvre ce que c'est de ne pas l'être aussi. Observe quand ça s'agite. Sois présent. Découvre. À partir du moment où tu découvres ça tout de suite, en une fraction de seconde, le travail commence là. L'observation. Ouf. Puis là, oh non, ça y est. Il y a un ami à moi. Grand ami à moi. J'avais pas vu depuis un bon bout de temps. Puis on se retrouve par hasard au cinéma. On s'était pas donné rendez-vous. On était là par hasard au même film. C'est un long, long film. Il y avait une entr'acte. Et à l'entr'acte, je dis, comment vas-tu? Etc. Et il me dit, Serge, au cours des 3 dernières heures, je n'ai pas été présent. Il me répond ça quand je lui demande comment ça va. Alors je lui dis, aïe, 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 t'es chanceux d'être capable d'avoir observé ça parce qu'il y a des gens qui, toute leur vie sans l'avoir réalisé. Ils passent toute leur vie sans l'avoir réalisé. Ils terminent leur vie sans avoir été présent, puis ils l'ont jamais réalisé. Alors, mais c'était merveilleux parce qu'on a eu un échange magnifique après. Mais il s'était rendu compte que pendant même le film, il n'était pas présent. Enfin.
Serge, je te remercie mille fois. En vérité, j'ai presque déjà envie de te dire qu'il va falloir un jour qu'on fasse une troisième version, puisque en fait, je pense que j'ai encore mille questions pour toi, mais je veux être respectueuse de ton temps et puis je pense qu'il y a déjà beaucoup de contenu en réalité dans ce que tu nous as dit. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à intégrer. Donc je te remercie d'avoir accepté de prendre le temps. Je te remercie mille fois d'autant partager, de livrer ton cœur, de te confier, et puis d'être aussi humain dans ta manière d'expliquer les choses. Je pense qu'on se sent jamais jugé, on se sent écouté en fait. Et moi personnellement, ça me touche beaucoup. Donc je te remercie.
Mais merci à toi, Pauline. Puis vraiment, merci pour ce que tu fais. Merci beaucoup à toi. Puis j'ai déjà envie de te dire, si tu veux qu'on fasse une autre rencontre, n'hésite surtout pas.
Mais la prochaine fois, j'aimerais bien peut-être venir te voir au Québec, ça serait encore plus sympa.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors merci beaucoup pour ta présence, tiens, pour ta présence. Merci beaucoup. Et puis, j'ai envie de te dire à la prochaine.
À bientôt. À bientôt,
merci,
Serge.
Merci.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.